Tous et à toutes, le Seigneur vous bénisse et vous encourage dans ce moment que nous passons ensemble pour glorifier Dieu et pour le louer, pour l'adorer, parce que ce moment de culte, c'est un culte d'adoration. On est là pour louer et adorer le Seigneur, lui rendre grâce pour tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il fera encore pour nous. J'ai pensé ce matin à un texte biblique qui se trouve dans l'évangile de Jean, et c'est le chapitre 6. Alors l'évangile de Jean est un très long chapitre, le chapitre 6 est un très long chapitre. Alors nous allons lire à partir du verset 60 jusqu'au verset 71. Donc seulement 11 versets, mais vous voyez que ça commence à 60. Alors évangile de Jean, chapitre 6. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent: Cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit: Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous plusieurs qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui était ce qui ne croyait point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta: C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si le Père si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12: Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon Pierre lui répondit: Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit: N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un de vous est un démon. Et il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Voilà. Nous avons dans ce texte biblique des paroles graves, hein. C'est dans le ministère du Seigneur Jésus, c'est ce moment, c'est le pic de son ministère. C'est-à-dire que sa popularité est allée en grandissant, en montant, en montant, en montant. Exactement à cet endroit-là, eh bien, c'est la déclivité, c'est la descente. Et jusqu'à la croix, le Seigneur Jésus va devenir de plus en plus impopulaire. Mais la popularité ici est à son sommet. Et le Seigneur Jésus, eh bien, met les disciples devant leur responsabilité. Et c'est vrai que nous sommes dans un monde qui est en grand changement. Si vous avez lu quelques journaux de scientifiques, et j'ai lu dans un en particulier, que dans les 50 dernières années, il y a plus de découvertes qui ont été faites que dans l'histoire de l'humanité tout entière. Voilà. C'est pour vous donner des chiffres. Il y a des personnes qui aiment beaucoup ce genre de chiffres. Et c'est vrai que même si vous avez un âge assez, hein, vous avez une vingtaine d'années, eh bien, vous avez vu déjà de très très grands changements et des changements fondamentaux. Il y a 20 ans, eh bien, le téléphone portable n'est pas ce qu'il est aujourd'hui. Je me rappelle de mon premier ordinateur. Ben, j'ose même pas vous en parler. Il n'y avait pas de disque dur là-dedans, hein? Ah ben. Merci. Et ce premier ordinateur, eh bien, n'avait même pas un disque dur. Les écrans n'étaient pas ce qu'ils sont. Je me rappelle, on m'avait dit, pour faire fonctionner tous les écrans d'ordinateurs en France, il faut une centrale nucléaire. Aujourd'hui, les écrans consomment beaucoup moins d'énergie. Hein. Merci hein, pour la pollution. On pollue beaucoup moins. On consomme sur d'autres choses. Mais c'est comme cela. Il y a des changements. Notre monde change à une vitesse phénoménale. On ne parle même pas de la mode. Ce qui aujourd'hui est à la mode, demain ne le sera plus. C'est nous sommes à la période, là c'est fini, l'hiver est terminé, on entre dans la collection de printemps et ça va être l'été. Donc c'est même pas la peine, oubliez vos habits d'hiver, l'hiver prochain vous ne les utiliserez pas. Déjà mettez-les à la poubelle, ça sert plus à rien. Ils sont passés, la mode est déjà passée. Et puis les chansons, et puis les films, on vous parle d'un film, il y a 15 jours, je ne suis pas au courant, hein, donc je ne m'intéresse pas tellement à la chose, pour pas dire pas du tout. Mais le film qui passait il y a 15 jours et aujourd'hui est remplacé par de nouveaux. Et on ne parle déjà plus de celui d'il y a 15 jours. Si quelqu'un en parle, mais bon, il parle de quelque chose qui est d'une autre époque. Il vivait à. Hein, c'est sur une autre planète que ça se passait. C'est pas sur la nôtre. Hein. C'est un peu comme cela. Le monde change et beaucoup de choses changent. Mais il y a des choses qui ne changent pas. Et des choses qui ne changeront jamais. Si vous avez un regard attentif, vous verrez que il y a des gens dans ce monde qui sont perdus. Et il y a même des gens, hein, c'est d'un certain âge, quand on leur parle de certaines choses, eh bien, elles vous disent, mais ça, je ne veux même pas en entendre parler. Je me rappelle il n'avait qu'une trentaine d'années à l'époque. Et son entreprise était passée à l'informatique. Eh bien, il a été perdu. Perdu complètement. Il a perdu son travail. Il n'a jamais pu retrouver de travail parce qu'il n'a jamais pu s'adapter à l'informatique. Il a dit, moi, je suis comptable. C'était un comptable. Je marche avec d'autres systèmes. Je ne peux pas me mettre à l'informatique. Et il a complètement s'est désociabilisé. Il a complètement perdu tous ses repères parce que l'informatique est entrée dans. Et c'était normal que l'informatique entre dans son entreprise parce que l'entreprise ne pouvait pas vivre sans l'informatique. C'était tout avancé. Et lui a refusé d'avancer. C'est comme cela. Mais il y a des choses qui ne changent pas, des choses qui ne changeront jamais. Et la personne qui ne change pas, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand vous avez tous ces disciples qui suivaient le Seigneur Jésus, ils avaient des multitudes de préjugés. C'est des choses qui les ont captivés. Par exemple, j'en ai noté un ici. Les gens parlaient du Seigneur Jésus et ils disent, cependant, celui-ci, nous savons d'où il est. Mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Ils se sont trompés. C'est ce qu'ils croyaient être quelque chose de leur mode, leur théologie, eh bien, était fausse. Il y en a un autre. Ils lui répondirent, es-tu aussi galiléen? Examine, et tu verras que de la Galilée, il ne sort pas de prophète. Ah, ça, c'est des belles paroles, hein. Mais malheureusement, ces gens, comme théologiens, étaient un peu fautifs, parce qu'il y a un prophète qui est sorti de la Galilée, il s'appelait Jonas. Et tout le monde connaît l'histoire de Jonas et du poisson de Jonas. Il a fait le tour de la terre et même ceux qui ne connaissent pas grand-chose à la Bible connaissent Jonas. Et Jonas était galiléen. Voilà. Donc il y avait des gens qui avaient des multitudes de préjugés. Le Seigneur Jésus est venu. Il a dit, mais moi je suis le pain de vie. Je suis le pain qui est venu du ciel. Moïse ne vous a pas donné le pain de vie. Moi, je suis le vrai pain de vie. Et c'est sur ces paroles-là que les disciples ont dit, mais ces paroles sont dures. Qui peut les écouter? Il a dit, mais ma chair est une nourriture. Mon sang est un breuvage. Et ils ont dit, non, non, jamais. On ne peut pas entendre des paroles comme cela. C'est trop dur. C'était des gens très religieux qui ont entendu ces paroles. Et le Seigneur Jésus, eh bien, les a scandalisés. Et souvent, le Seigneur nous scandalise parce qu'il va à l'encontre de tout ce que nous croyons, de tous nos préjugés, de toute notre science, de tout ce que nous croyons avoir été le meilleur dans notre siècle, dans notre époque. Vous vous rendez compte, si on vous dit, mais les ordinateurs, mais un jour tout ça va disparaître. Il y a bien meilleur que ça. Bon, je parle d'ordinateur parce que hein, on est beaucoup plus. Mais certains vont dire, mais la dernière voiture, mais elle n'existera plus un jour. Mais ceci et cela, toutes ces choses n'auront plus cours un jour. Tout ça va disparaître. Et il ne s'agit pas d'être grand prophète pour prédire que toutes ces choses un jour vont être remplacées par d'autres. Ils n'auront plus de valeur.
C'est comme cela. C'est le, vous avez une maison, vous avez ceci et cela, des voitures, des vêtements, un travail, et toutes ces choses, un jour, sont appelées à disparaître parce que toutes ces choses passent. Et si vous dites ce genre de choses à certaines personnes, eh bien, vous les scandalisez. Vous dites, mais pas du tout, pas du tout. Moi, je ne veux pas entendre des choses comme cela. Et je me rappelle d'une personne qui m'a dit, moi, ça, je ne veux pas l'entendre. Je ne veux pas entendre ça. Ils veulent tenir à toute cette matière, à toutes ces choses. Mais si on leur dit, mais ce qui est matériel est appelé à disparaître, ça a un temps. Il y a des choses qui ne passent pas, qui ne changent pas. Et ce sont ces choses-là qui doivent prendre de l'importance dans nos vies. Les choses matérielles. Vous dites, mais moi, j'ai 20 ans, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, j'ai encore des années devant moi. Je vais. Mais ces choses-là, vous ne savez pas qu'elles sont appelées à disparaître et qu'elles sont appelées à ne pas vous satisfaire, à pas remplir votre cœur. Ces choses-là, elles sont seulement pour un temps. C'est tout. Ça ne va pas plus loin. Et c'est comme ces gens qui possèdent beaucoup d'argent et ben ils en veulent davantage. C'est bon, je n'ai parlé il n'y a pas longtemps, mais je me rappelle d'une conversation que j'ai surpris. Il y avait deux dames qui discutaient et je n'étais pas censé entendre ce qu'elles étaient en train de dire. Et il y en a une qui disait en confidence à l'autre, vous savez, c'est le premier million qui est le plus difficile à gagner. Après, les autres, on les gagne tout seul. Je ne savais pas. Parce que je n'ai jamais gagné un premier million. Parce que je n'ai même pas commencé un premier million. Donc, puis je n'ai pas l'intention de commencer. Mais, ah oui, mais ça, c'est un secret qui se dit dans le creux de l'oreille. Ah, c'est comme cela. Et après, les autres, on les fait avancer. Ce sont des. Mais toutes ces choses, elles vont disparaître. Celui qui a un million, il veut en avoir un deuxième, un troisième, un quatrième, un dixième, un millième. Un milliardième. Mais toutes ces choses, vous les ajoutez les unes aux autres, et en les ajoutant les unes aux autres, vous faites la preuve qu'elles ne vous satisfont pas, parce que vous avez toujours d'un autre, d'un supplémentaire. Vous regardez la nouvelle voiture, ça vous prouve que celle que vous avez ne vous satisfait pas, que vous avez envie de la suivante. Vous n'êtes pas rassasié par ces choses, elles ne remplissent pas votre cœur. Et vous voyez des personnes collectionner. Ce sont des collectionneurs de toutes sortes de choses. Il leur faut la dernière ceci, la dernière cela. Et ils ajoutent. Il y a des gens qui collectionnent les timbres poste. Je l'ai fait, hein. Et un jour, j'ai tout donné. Parce que je ne voulais plus rentrer dans cette collection-là. Et puis un jour, j'ai collectionné les pièces et j'ai tout donné. Parce qu'il y avait des pièces avec des nouvelles effigies et c'était différent. C'était à l'époque où il y avait des francs. Et puis un jour, j'ai dit tout ça n'a aucune valeur. Et j'ai tout donné parce qu'il y avait des personnes qui s'y intéressaient. Moi, je ne voulais plus m'y intéresser. Mais toutes ces choses, elles sont appelées à disparaître. Et parce qu'elles sont temporelles, parce qu'elles sont fragiles. Parce qu'elles ne remplissent pas le cœur, alors il faut ajouter et ajouter et ajouter. Et là où je suis beaucoup plus concerné, c'était par rapport aux livres. C'est pour moi, il me fallait toujours des livres et des livres et des livres et des livres. Et je peux vous dire, j'ai eu faim pour acheter des livres. Je me suis privé de manger pour pouvoir acheter des livres. Un jour, j'étais reçu dans une très très grande librairie qui a un nom prestigieux. D'ailleurs, la Bible, il y a une des Bibles qui est là-bas, c'est la Bible du fondateur de cette librairie. Et elle m'a été donnée à titre amical parce que voilà, j'étais très très après un appréciateur de ces choses. Et j'ai la dame, vous savez, j'ai peur un jour de devenir un collectionneur de livres. Elle m'a dit, mais monsieur, n'ayez pas peur, vous l'êtes déjà. Et puis un jour, il a fallu que je perde mes livres. J'ai perdu. Et je crois que mes livres sont à trois endroits différents de cette planète. Et je ne suis pas sûr de les rassembler un jour dans un seul endroit. Et puis je vais vous dire, je n'arrivais même plus à les lire. Je lis ma Bible. Et c'est seulement la parole de Dieu qui m'intéresse. Elle remplit mon cœur. et j'ai trouvé bien mieux que tous les livres. Et pourtant, mes livres, c'était des livres chrétiens. Oh, mais il y avait aussi des livres de sociologie, des livres de philosophie, des livres de politique, des livres qui, hein, il fallait que je réfléchisse, des livres scientifiques de toutes sortes, parce que ma curiosité, c'est sans borne. Il fallait que je sache, que je chasse, que je sache absolument, absolument. Mais la parole de Dieu, c'est elle qui remplit le cœur. À qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous ? Vers qui nous tourner ? Où aller ? Où chercher ? Que chercher ? Vous pouvez ajouter, vous pouvez ajouter, vous pouvez ajouter. Il n'y a jamais de fin. Et même Salomon a dit, les yeux de l'homme sont insatiables. Insatiables. Et il avait fait cette remarque que l'on a toujours besoin de posséder davantage et davantage et davantage. Et lui a donné un très mauvais exemple parce qu'il est un collectionneur de femmes. Il en a eu 1000. Alors, bon, j'ai pas grand-chose à dire. Je pense qu'il avait un problème. Mais c'était un collectionneur. Et quand on a, à la 20e, on ajoute la 21e, à la 100e, on ajoute la 101e, à la 1000e, pourquoi il s'est arrêté ? Parce qu'il est mort, c'est tout. Parce que sinon, il aurait ajouté et ajouté. Insatiable, toujours vouloir davantage. Cela prouve qu'il y a un vide dans le cœur. On n'est pas satisfait de ce que l'on a. On a besoin de toujours davantage. Mais il y a une satisfaction, c'est Jésus-Christ. C'est Pierre qui l'exprime. Il est dit, à qui irions-nous ? À qui irions-nous ? C'est quel prophète allons-nous suivre ? Quelle nouvelle envoyée ? Quelle nouvelle révélation allons-nous avoir ? Il faut ajouter une révélation à une autre révélation, un prophète à un autre prophète. Mais quand le Seigneur Jésus est arrivé, il a conclu la chose. Il est arrivé, il a mis fin à tout ça. Il est celui qui est l'ultime révélation, celui que nous devions recevoir, celui qui devait remplir notre cœur. Et il le remplit. Et je peux rendre témoignage que le Seigneur Jésus remplit le cœur. Oh, vous pouvez avoir des problèmes. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de problèmes. Vous pouvez avoir des problèmes et même des problèmes graves. Mais néanmoins, vous retrouverez toujours la lumière qui est Jésus-Christ. Il est toujours celui qui remplit le cœur. Il est toujours celui qui satisfait. Il est toujours celui qui ne déçoit pas. Vous pouvez être déçu par l'humanité entière. Vous pouvez être déçu par vos meilleurs amis. Vous pouvez perdre ce que vous avez de plus cher. Mais vous ne perdrez jamais le Seigneur Jésus quand vous le possédez. Quand il a rempli votre cœur, il a rempli pour l'éternité. C'est une parole précieuse et douce. Quand on dit « À qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Saint de Dieu. » Que tu es l'envoyé de Dieu. Et il ne s'agit pas d'une religion, il ne s'agit pas d'un principe religieux, il ne s'agit pas d'une nouvelle doctrine, mais il s'agit d'une personne qui remplit notre vie, qui a pris toute la place. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux, qui dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Et vous pouvez manquer. Et vous pouvez manquer même du nécessaire. Vous pouvez manquer de tout ce que vous pouvez imaginer. Mais si vous avez le Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur, vous êtes comblé. Au-delà de toute mesure, c'est lui qui ne déçoit pas. Les hasards de la vie font que vos amis changent de ville. J'avais un très grand ami. Il était hollandais, mais sa mère était indonésienne. Et il avait le type indonésien très très marqué. Donc c'était mon meilleur ami et ça l'est toujours. Il y a des dizaines d'années que je ne l'ai pas rencontré et voilà, je pense à lui de temps en temps. Et je me rappelle quand il chantait un chant indonésien, peut-être vous avez entendu Bengawan Solo. C'est un très très beau chant et très très pathétique, très émouvant. C'est une très belle musique. Et c'était mon meilleur ami. Mais je ne l'ai pas vu depuis des années. Et je n'ai pas de coup de téléphone, je n'ai pas de nouvelles. Je sais tout juste qu'il est en Hollande, qu'il travaille à instruire des personnes, leur apprendre le hollandais. Voilà, le néerlandais. C'est pas le hollandais, c'est le néerlandais. Et alors, voilà. Mais Jésus, je ne l'ai pas perdu. On peut perdre ses meilleurs amis, on peut les perdre de vue. Ils peuvent changer de ville, ils peuvent être à l'autre bout de la planète, pas de contact. Mais le Seigneur Jésus est toujours là. il est toujours précieux. Vous pouvez vous réveiller la nuit avec de fortes angoisses et être dans la tristesse parce qu'il y a quelque chose qui vous préoccupe, qui vous trouble. Mais vous dites, Seigneur Jésus, remplis ma vie, prends la première place dans ma vie, sois tout ce dont j'ai besoin. Je me réfugie en toi et vous êtes consolé, vous êtes affermi. C'est ce regard de foi, c'est ce regard où vous dites, Seigneur Jésus, c'est toi seul qui es le refuge de ma vie. C'est toi qui es mon rocher, ma forteresse. C'est quelque chose. Si mon père, Pierre, lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Le Seigneur Jésus leur a donné la liberté. Il leur a dit, allez-y, vous voulez partir? Les autres sont partis. Allez-y, vous voulez partir? Vous pouvez partir. Et je peux vous dire, combien de chrétiens sont partis? Oh, bien sûr, quand on est né de nouveau et réconcilié avec Dieu, on ne perd pas son salut. Mais combien ont mis le Seigneur Jésus de côté dans leur vie? Pour des choses sans valeur. Des choses absolument... dans 10 ans ou dans 20 ans, eh bien, ces personnes vont dire « j'ai fait une folie ». Je me rappelle de personnes, en particulier, qui ont fait ce genre de folie. Et des années plus tard, ces personnes m'ont dit « si j'avais su, si j'avais su ». Mais je peux vous dire, ils savaient qu'ils mettaient le Seigneur Jésus de côté dans leur vie. Ils savaient ce qu'il en coûtait. Mais ils l'ont fait quand même, de mettre le Seigneur Jésus de côté. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Mais en dehors de lui, il n'y a pas les paroles de la vie éternelle. En dehors de lui, tout est vanité, tout est poursuite du vent, tout est changement, tout est décevant, tout se perd, tout se disperse. Je me rappelle, comme j'ai été collectionneur de livres, j'avais des catalogues, je recevais des catalogues et je feuilletais mes catalogues en cherchant celui qui était vraiment... il me manquait, évidemment, puisque je ne l'avais pas. Et alors, puis je ne savais même pas qu'il existait, mais une fois que je savais qu'il existait, il me manquait. Et alors, je feuilletais mes catalogues et la collection d'un tel est dispersée parce qu'il est décédé. Ah, mais c'est comme ça. C'est le perdu. Il a perdu la vie, alors ses héritiers sont dit, ce vieux, il avait tous ses livres, on va en faire tirer quelques sous, hein. Il y en a quelques-uns qui ont de la valeur, et puis ils ont mis tout ça en vente, et puis c'est comme ça. Mais il y a des choses qui ne changent pas. Le Seigneur Jésus-Christ, les paroles de la vie éternelle, elles sont en Jésus-Christ, elles ne sont pas ailleurs. Vous pouvez analyser, sonder, regarder, qu'est-ce qu'il y a qui est à Jésus-Christ? Qu'est-ce qui me ramène à Jésus-Christ? Et qu'est-ce qui m'éloigne de Jésus-Christ? C'est une bonne question, vous savez. Il y a des choses, si vous les regardez de près, vous dites, mais cette chose-là, elle m'éloigne de Christ. À un moment ou un autre, elle m'éloigne de Christ. Elle prend mon cœur, elle prend mes pensées, elle m'emmène loin. Et donc, cette chose-là, elle n'a pas de valeur. Je la mets de côté. Je ne veux plus la tolérer dans ma vie. Parce qu'elle m'éloigne de Christ. C'est une règle dans la vie chrétienne. Tout ce qui vous éloigne de Christ, c'est mauvais. Mettez-le de côté, ça n'a aucune valeur. Si vous perdez votre paix, si vous perdez votre joie, si vous perdez cette fraîcheur spirituelle que vous avez reçue quand Jésus-Christ est devenu votre sauveur, mettez ça de côté. Ça n'a aucune valeur. Après, aux yeux du monde, oui, ça a de la valeur. Après, ça a de la valeur parce que ça a une valeur monétaire, ça a une valeur matérielle, ça a une valeur sentimentale, ça a des valeurs de toutes sortes. Mais ça n'a pas une vraie valeur. Ça n'a pas la valeur spirituelle. Ça n'a pas une valeur éternelle. Et ces choses-là, eh bien, elles vous décevront. Et à un certain moment, vous direz, mais pourquoi est-ce que je me suis tellement laissé prendre à ce piège? C'est comme cela. Et il y a des choses qui vous rapprochent de Christ, au contraire. Plus ces choses vous rapprochent de Christ, plus elles sont précieuses. Et ces choses-là, gardez-les précieusement, cherchez-les, approfondissez-les, regardez à ces choses, parce qu'elles vous rapprochent de Christ. Et c'est Christ qui est le pivot, le centre. Tout tourne autour de lui dans notre vie chrétienne. Je me rappelle, il y a des années... Je vais méditer sur certains passages de la Bible avec un livre. Et le premier chapitre, c'était Christ au centre. Voilà, Christ au centre. tout tourne autour de Christ. Et je peux dire que quand tout tourne autour de Christ dans votre vie, alors tout tourne harmonieusement. Parce que Christ est celui qui donne la vérité, la raison d'être aux choses. Ces choses-là, sans Christ, elles n'ont pas de valeur. Elles n'ont pas de... J'existe. Pourquoi est-ce que j'existe? C'est en tant qu'être humain, posez-vous la question, pourquoi est-ce que vous existez? Est-ce que vous êtes simplement une poussière qui est arrivée un jour sur cette planète et puis un jour vous allez repartir? Exactement, il y a un coup de vent qui vous amène, un coup de vent qui vous ramène et qui vous balance à droite et à gauche. Ce n'est pas cela. Il n'y a pas un hasard qui a fait que vous êtes là. Il y a une volonté divine. C'est Dieu lui-même qui est intervenu. Et vous avez une existence. Il y a quelque chose. Vous êtes là pour quelque chose. Mais ce quelque chose, pourquoi vous êtes là? C'est Christ. Vous êtes là pour Christ. Notre vie est créée par Dieu. C'est Dieu lui-même qui est notre créateur. C'est vers lui que nous devons nous tourner. C'est lui qui est notre rédempteur. C'est lui qui est notre sauveur. C'est Jésus-Christ qui a donné une raison d'être à notre vie. Si je n'ai pas Christ, je suis perdu. Je suis perdu. Je me rappelle ma vie sans Christ. Et je peux vous dire, c'était une vie de misère. Une vie de misère. Ma vie, c'était une recherche de la mort. Je cherchais à mourir par tous les moyens. Mais attention, il fallait que ce soit un accident. Donc je prenais tous les risques, tout. Je faisais des choses insensées, insensées. Quand je réfléchis à ce que j'ai fait, je peux vous dire, vous êtes bien assis. Je me suis penché pour regarder ce qui se passait dans l'appartement en dessous de là où j'habitais. Seulement, j'étais au 9e étage. Et j'étais accroché à la fenêtre et je regardais pour voir ce qui se passait sous. Et j'essayais de regarder le plus loin possible. Mais je me disais, si tu meurs, tant pis. Hein. Tant pis. Qu'est-ce que ça vaut, l'existence? Mais à partir du moment où Christ est devenu ma vie, ma joie, mon bonheur, tout ce dont j'ai besoin... Alors j'ai trouvé un sens à ma vie. Je suis pourquoi je vivais. Je vis pour Christ. Je vis pour la gloire de Dieu. Je vis pour l'avancement du règne de Dieu. Je vis pour vous, que vous grandissiez. Mais c'est l'œuvre de Christ en vous. Je vis pour que Christ soit glorifié. C'est cela le plus merveilleux. Il n'y a pas d'autre raison de vivre que Christ. Et c'est ce que Pierre disait. Les autres ont dit, mais ces paroles sont dures. Qui peut les écouter? Et le Seigneur Jésus leur a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Sont esprit et vie. Et il dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. La chair ne sert de rien. La chair, c'est tout ce qui est matériel, c'est tout ce qui est charnel, c'est tous ces appétits que nous avons, cette soif de posséder, d'avoir, de ceci et cela, cette recherche du bonheur. Alors chacun met le bonheur à sa sauce. Hein. Pour certains, le bonheur, c'est d'avoir plus d'argent. D'autres, le bonheur, c'est de trouver une belle maison, avoir une voiture, et en partir en vacances. Le bonheur, vous mettez le nom que vous voulez. Mais toutes ces choses ne servent de rien. De rien. Et ces disciples sont venus parce que le Seigneur Jésus avait multiplié les pains. Alors ils sont revenus. Et le Seigneur Jésus a dit, vous n'êtes pas venu à cause des paroles, vous êtes venu pour manger du pain. Et il n'a pas multiplié les pains une nouvelle fois, bien sûr. Et c'est à cette occasion-là qu'il a dit, moi je vais vous donner le vrai pain, le pain qui est du ciel, et c'est moi le pain. C'est-à-dire que c'est moi qui remplis, qui satisfait, qui rassasie. C'est votre soif, si vous avez soif, eh bien je suis celui qui désaltère. Si vous avez faim, c'est moi qui rassasie. C'est parce que notre faim, notre véritable faim, notre véritable soif est spirituelle. Après une soif matérielle, vous avez bu un verre d'eau, vous avez bu votre boisson quotidienne, vous avez mangé votre nourriture, vous avez ce qu'il vous faut. Mais on a des besoins spirituels qui sont autrement plus importants que les besoins matériels. Et le Seigneur Jésus dit, vous êtes venu chercher du pain pour remplir votre estomac, mais vous êtes en train de chercher quelque chose qui ne sert à rien. ou qui est tellement relatif, qui est tellement limité dans le temps, que ces choses-là, eh bien, demain, vous êtes obligé de recommencer. Et de jour en jour, jusqu'à votre mort, il faut que vous renouveliez cette opération de boire et de manger. C'est jusqu'au moment où, évidemment, c'est fini. On ne boit plus, on ne mange plus parce qu'on est mort. Mais il y a une faim, il y a un besoin spirituel qui ne peut pas être étanché, qui ne peut pas être rassasié autrement que par Jésus-Christ. Et ce n'est pas une religion. Il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La chair ne sert de rien. Pour les choses spirituelles, bien sûr. C'est après les choses matérielles. Bon, évidemment, on a besoin de manger, on a besoin de boire, on a besoin d'une voiture pour se déplacer à droite, à gauche. Mais même à Paris, parfois, c'est absolument inutile. Toutes ces choses, elles n'entrent pas en ligne de compte. Mais ce qui est important, c'est notre soif spirituelle. On a une soif spirituelle. Et souvent, cette soif spirituelle, nous la décomposons en soif matérielle. C'est-à-dire que nous essayons d'étancher notre besoin spirituel par des moyens matériels. Mais vous n'êtes pas une machine, vous êtes un être humain. Et un être humain qui est créé avec des besoins spirituels et un besoin spirituel divin. Il n'y a que Dieu qui peut remplir votre cœur. Uniquement Dieu. Ces choses matérielles que vous essayez d'assimiler les unes après les autres ne rassasieront jamais votre soif spirituelle. Regardez ce qui se passe dans ce monde. Là, je vous ai parlé de celui, quand on a gagné le premier million, on est prêt pour gagner les autres. Mais c'est une soif spirituelle, en fait. Et cette personne essaye d'étancher sa soif spirituelle en accumulant des millions de francs à l'époque. C'était maintenant des euros. Et certains, c'est des dollars. D'autres, c'est des yens. D'autres, c'est des wons. D'autres, c'est de toutes sortes de monnaies. Chacun a sa monnaie. Chacun a son appétit. Mais je peux vous dire, votre soif est une soif spirituelle. Vous avez des personnes qui sont dans la rue et qui boivent énormément d'alcool, mais qui sont des alcooliques, qui détruisent leur santé par l'alcool, elles essayent d'étancher une soif spirituelle en buvant de l'alcool. Certains, c'est leur soif spirituelle, ils essayent de la rassasier avec de la nourriture. Il y a une boulimie, c'est quelque chose d'affligeant de voir que nous nous remplissons, mais il y a une soif spirituelle qui est autrement plus importante que toutes ces soifs et tous ces appétits de matière. Et le Seigneur Jésus donc leur a dit, c'est les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Nous avons besoin des paroles qui sont esprit et vie. Nous avons besoin d'être rassasiés par une autre nourriture que la nourriture matérielle. Nous avons besoin d'être rassasiés par d'autres choses. Ce sont des choses spirituelles. Et donc Pierre, quand il a donné la réponse, il a donné la bonne réponse. Seigneur, à qui irions-nous? Vers qui se tourner? C'est toi seul. Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. Quelles sont ces paroles de la vie éternelle? La vie éternelle, c'est une expression dans les évangiles. La vie éternelle, c'est une vie, une vraie vie. C'est une vie spirituelle. C'est la vie, qui n'est pas de la matière, parce que la matière est périssable. Elle est limitée dans le temps. Mais donc, c'est une vie éternelle. C'est une vie qui n'est pas limitée dans le temps. Ce sont des paroles vivantes, des paroles puissantes, des paroles qui agissent, qui font quelque chose qui changent notre cœur. Et vous avez la parole de Dieu, la Bible. Quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible, il y a quelque chose qui se passe. Ce n'est pas pour rien que la Bible est le livre le plus imprimé au monde. Il n'y a aucun livre au monde qui est imprimé en autant de langues. Presque toutes les langues parlées dans ce monde, la Bible a été traduite dans ces langues. Elle est répandue partout. C'est le livre le plus vendu au monde. C'est le livre le plus possédé. C'est le livre le plus lu. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas. Vous pouvez avoir le dernier best-seller, mais lui, il va durer 3 mois. 3 mois, c'est une belle vie déjà. Hein. Dans une semaine, on n'en parle plus. Hein. C'est voilà, il a été le livre de moment. Mais la parole de Dieu, depuis des siècles, elle a traversé les siècles. Il y a des gens qui sont morts pour la parole de Dieu. C'est pour lire la parole de Dieu. Je me rappelle d'un tableau à l'époque où il a été peint, à l'époque où en France, la Bible était interdite. Et vous avez un homme d'un certain âge, la Bible est ouverte, il regarde comme cela derrière lui, et puis il y a une jeune fille qui lit par-dessus son épaule et qui regarde aussi vers la porte. C'est parce qu'ils savent qu'ils risquent leur vie en lisant la parole de Dieu, en possédant la parole de Dieu. Mais ils étaient prêts à perdre leur vie, à risquer leur vie. Je possède une Bible, d'ailleurs elle est dans la vitrine là-bas. Aujourd'hui je parle de mes Bibles dans cette vitrine. Mais le feu est passé dessus. On voit les traces de feu. Et c'est une Bible du 18e siècle. C'était à l'époque de la persécution. J'en ai une, elle a été cachée. On voit qu'elle a encore de la poussière et des gravats entre les pages parce qu'elle a été cachée dans un grenier ou dans une cave, dans un endroit où on ne risquait pas de la trouver. Parce qu'il y avait des risques de vie si on lisait la Bible, si on possédait la Bible. Parce que c'est la parole de Dieu. Ces paroles sont esprit et vie. C'est acquérions-nous, tu as les paroles de la vie éternelle. Je peux vous dire, c'est une chose très importante. Ne vous laissez pas prendre au piège. Il y a des multitudes de choses qui se présentent devant vous. Vous avez beaucoup de choix. Ces choix qu'on appelle légitimes. Mais faites attention. Les paroles de Christ sont esprit et vie. C'est lui qui a les paroles de la vie éternelle. Tout le reste est relatif. Limité. Un jour, ça va passer. Ce que vous appelez bien aujourd'hui, demain s'appellera mal. Ce que les gens cherchent aujourd'hui, demain le regarderont comme totalement impropre à remplir le cœur et à donner le bonheur. Ces choses-là sont appelées à disparaître. Mais il y a seulement la parole de Dieu, la parole de Christ, qui ne changera jamais. Le Seigneur Jésus sera toujours là, toujours précieux pour vous, dans toutes les circonstances. Au cours des siècles, les gens se sont tournés vers Jésus-Christ. Les modes ont changé. Je vous parle des Romains. Les Romains ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur. Certains, pas tous, mais certains l'ont accepté. Aujourd'hui, nous acceptons toujours Jésus-Christ de la même manière comme sauveur. Il est toujours celui qui lave de nos péchés. Pourtant, les coutumes des Romains ont changé. Nous ne sommes plus à l'époque des Romains, nous ne sommes plus à l'époque des Germains, nous ne sommes plus à l'époque, je pourrais vous citer toutes ces époques de l'histoire de l'Europe et ou de l'histoire de ce monde. Toutes ces époques ont changé, les coutumes ont changé, les manières de penser ont changé, les philosophies ont changé. Et même, nous pouvons dire, dans l'époque où nous vivons, eh bien, il y a des systèmes de pensée qui ont changé. Il y a des politiques qui ont basculé, mais toujours des personnes se tournent vers Jésus-Christ pour être sauvées, pour être réconciliées avec Dieu. Toujours Jésus-Christ est celui qui remplit le cœur, toujours celui vers qui on peut placer notre confiance. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est lui qui ne change pas. Le monde change, mais lui ne change pas. C'est dans lui que sont les paroles de la vie éternelle. C'est lui qui est le Seigneur. C'est lui qui est le sauveur. Et si vous n'avez jamais accepté Jésus-Christ comme votre sauveur, eh bien, je peux vous dire, c'est le moment le plus précieux qu'il y a dans la vie d'un être humain. Le jour où on dit « Seigneur Jésus, sauve-moi, lave-moi de mes péchés, réconcilie-moi avec toi, j'abdique enfin devant toi, parce que tu es le Seigneur. Je reconnais que c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle, c'est toi qui as les vraies paroles. » Jusqu'à présent, j'ai cru à toutes sortes de paroles qui n'ont aucun sens. Mais maintenant, je crois à ces paroles que tu as prononcées. À qui irions-nous ? À qui irions-nous ? Vers qui allez-vous aller ? C'est cela qui est important. C'est une bonne question. Vous pouvez vous dire, on va quitter la salle tout à l'heure, mais vous pouvez vous dire, c'est vers qui vais-je aller? À qui vais-je aller? Qui va remplir mon cœur? Quels sont mes espoirs? Quelles sont mes espérances? Qu'est-ce que je recherche? Quelle vérité je suis en train de chercher? La vérité, c'est une personne. Ce n'est pas un système. Vous n'avez pas un système religieux. Il n'y a pas une nouvelle religion. Il y a un sauveur. Il y a un Seigneur. Et c'est Jésus-Christ. Il est le seul qui a rempli et qui peut remplir votre cœur. Il a rempli mon cœur. Je peux le rendre témoignage ici. Ça ne veut pas dire que je n'ai plus de problèmes. Hein. C'est des problèmes, on en a. Mais néanmoins, je ne suis pas tout seul à les vivre. Il est là pour m'encourager, me fortifier. Et il a les paroles de la vie éternelle qui sont des paroles lumineuses et qui rafraîchissent et qui consolent. Et je ne suis pas orphelin. Mais je ne suis pas le seul. Il y a d'autres aussi qui ont fait la même expérience. Et je peux vous dire, si vous ne l'avez pas faite, alors tournez-vous vers lui, vers Jésus-Christ, car il est le seul sauveur. Il est la seule solution pour votre vie. Il est le seul qui remplit votre cœur, qui peut remplir votre cœur. Votre cœur est beaucoup trop vaste. Les petites choses de ce monde ne le rempliront pas. Il est trop grand pour que ces petites choses le remplissent. Il n'y a que Dieu qui peut le remplir. Lui qui est l'infini, qui est si grand et si merveilleux, il est le seul qui peut remplir un cœur, qui peut remplir une vie et qui peut donner un sens à une vie. Parce que c'est là que toute l'importance. Quel est le sens de ma vie? Est-ce que le sens de ma vie, c'est de gagner de l'argent? Est-ce que le sens de ma vie, c'est d'avoir des maisons, des voitures, de me marier, d'aller au bout de la terre, de faire le tour du monde, d'avoir des belles vacances? Est-ce que c'est cela le but de ma vie? C'est le but de la vie. De la vraie vie, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est le vrai but. Le reste, ça n'a pas vraiment d'importance.